Bonjour. Nous allons cette fois-ci parler d'un sujet qui a l'air peut-être un peu complexe, à savoir l'économie, sur le thème de savoir si l'économie peut être une façon de prédire l'avenir, puisqu'il semblerait que des analystes se sont penchés sur des mots-clés qui sont utilisés par des journalistes économiques dans des revues spécialisées économiques ou bien sur les sites dédiés. Et à partir de plusieurs centaines d'articles différents, ils arrivent à déterminer des tendances réelles de l'économie mondiale, laquelle, comme on sait, peut avoir un impact sur la vie quotidienne. Et donc, pour être, peut-être, on nous donnera la réponse, une méthode pour prévenir l'avenir. Alors, avec moi, Gérard Klein, économiste diplômé en psychologie appliquée, un grand auteur qu'on ne présente plus, un critique, un essayiste et aussi un grand éditeur, responsable de la collection Ailleurs et Demain, mais qui a aussi été au livre de poche. Voilà. On peut retenir aussi alors du côté des essais Trames et Moirées aux éditions du Somnium. Il y a Mémoire vive, Mémoire morte, qui est un recueil de nouvelles vraiment important. La loi du talion et bien sûr les seigneurs de la guerre. Pour ce qui est de notre thème, le thème du temps, c'est un roman pratiquement fondateur.
Sans oublier le livre que je viens de sortir avec Jean-Pierre Farabaud, bon sens, sur oui, la physique sûr. Quantique, enfin, les certaines difficultés qu'elle présente.
C'est dire le nombre de cordes à son arc. Donc, effectivement, oui, il y a ce dernier ouvrage sur la physique quantique que j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, de commenter dans une revue. Olivier Parent, à côté de moi, est prospectiviste. Il a démarré aux arts graphiques Émile Coll et puis a débuté dans l'audiovisuel. Il est auditeur pour l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Et vous pouvez retrouver ses textes sur le site futurhebdo.com qu'il a fondé, où à travers de petits billets qui sont censés se dérouler dans le futur, il nous présente quelques aspects de la société et de ce qui nous attend. Et puis Olivier Berenval a travaillé, lui, dans l'aide internationale au développement et à la finance. C'est un amoureux de l'Afrique, ce qui ne se voit peut-être pas vraiment dans ses romans de science-fiction, puisqu'on est d'une part dans la hard science avec Janos Singularité Nue, et qu'ensuite on est, pour la nouveauté, elle n'est pas encore parue, aussi elle vient de sortir. C'est un space opéra carrément, qui s'appelle d'ailleurs Nemrod Planet Opéra. Voilà, alors en préambule, je pourrais peut-être citer Laurence Peter, que vous connaissez plus communément pour avoir donné, édicté le principe de Peter, hein, comme quoi chaque individu s'élève à son niveau d'incompétence, et qui nous a donné cette définition. Un économiste est un expert qui saura demain pourquoi ce qu'il avait prédit hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Absolument, voilà. Donc, on peut peut-être se poser la question, alors... est-ce que vraiment l'économie pourrait servir à prédire le futur, Gérard?
Non, je dirais franchement non. J'ai une longue expérience d'économiste, de macroéconomiste, mais de macroéconomiste de terrain. Je suis un peu comme quand j'étais économiste pour la Caisse des dépôts et consignations, m'occupant d'économie de l'urbanisme, et puis ensuite et surtout d'économie de l'épargne des ménages, et par conséquent des livrets d'épargne du livret A. Et quand j'ai conçu le plan d'épargne logement, j'étais un peu comme un médecin de campagne, c'est-à-dire je ne suis pas un grand théoricien, je ne suis pas familier des modèles, je m'en méfie énormément, sans du tout les négliger ou les écarter. Enfin, je vous dis, je suis un économiste de terrain. On me posait un problème concret, comme celui qui a été soulevé quand j'ai conçu le plan d'épargne logement. Et on essayait, avec une équipe plus ou moins importante, là c'était une équipe gigantesque, la plus grande que j'ai jamais eue, et des moyens pratiquement illimités parce que le problème était grave, On essayait de lui donner une réponse. Je crois que je ne m'en suis pas trop mal sorti. Alors j'ai connu aussi, j'ai fréquenté aussi la microéconomie par l'autre bout, c'est-à-dire en particulier par l'édition. Même un directeur de collection, enfin j'ai dirigé beaucoup de collections, j'étais très proche de Robert Laffont, je me suis beaucoup occupé du livre de poche. Donc en quelque sorte, on fait de la microéconomie. Et je dois dire que mon expérience d'économiste m'a énormément servi dans l'édition et m'a probablement assuré une survie exceptionnelle par sa longueur dans ce métier difficile.
Alors, c'est vrai que la question est très difficile. On a une réponse là assez franche. À mon sens, ce qui est important de rappeler, c'est que l'économie en tant que domaine d'étude a une très grande différence avec d'autres domaines, par exemple la biologie ou la géologie ou même les mathématiques, la physique. C'est-à-dire que tous les domaines que je viens de citer n'ont pas d'influence sur l'objet de l'observation. Un biologiste ou une personne qui va travailler sur l'évolution ne va pas modifier l'objet qu'il observe. Que l'économiste, à l'instant même où il observe et où donc il va donner le résultat de son observation, va avoir un impact plus ou moins grand suivant le domaine d'étude, suivant l'écho qui sera donné à l'étude, va avoir ou peut avoir un impact sur l'objet qui est observé. Ce qui fait de l'économie quelque chose de très particulier, comme dans le domaine des sciences. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent, on dit souvent que l'économie fait partie des sciences humaines, donc les sciences dites molles plutôt que des sciences dites dures, parce qu'il y a cette influence sur l'objet qui est observé.
J'aimerais faire une remarque complémentaire là-dessus, je vais tout à fait dans le même sens que vous, mais c'est que dans les sciences à proprement parler, je pense que l'économie n'est pas une science, et que ce qu'on appelle science humaine, c'est un abus de langage, il y a les humanités, quelque chose de tout à fait différent. Donc dans le domaine proprement scientifique, on peut isoler une partie du réel et l'étudier comme tel. Ça devient, en biologie, en médecine, ça va de plus en plus difficile. Mais en physique fondamentale, par exemple, on isole une fluctuation, on isole une particule, on isole une partie du réel. C'est en partie artificiel. Bon. Pour un économiste ou pour un sociologue, ce que j'ai été à peu près, a fortiori pour un prospectiviste que je suis toujours, on ne peut rien isoler du tout. On est confronté à une partie d'un tout qui reste intimement lié à tout le reste de l'univers. Alors, ça, c'est très important. Je pense que dans ce qu'on qualifie de sciences humaines, je préfère appeler l'ancien terme d'humanité, ce qui les caractérise, c'est qu'on ne peut pas isoler une partie de leur champ. Donc ça limite beaucoup. D'un autre côté, je ne dénie pas du tout l'importance des savoirs, l'importance des connaissances. En disant ce ne sont pas des sciences, je ne dis pas que ce n'est pas sérieux. Je détruirais mon propre travail de 40 ou 50 ans. Mais c'est autre chose, ça ne fonctionne pas pareil. Comme j'ai travaillé un peu des deux côtés, je perçois peut-être mieux la différence.
Oui, moi je souscris totalement à ces remarques, notamment sur l'observabilité et ce que l'on nomme le feedback, la rétroaction, c'est-à-dire à partir du moment où on observe un système qui est fermé, il y a effectivement quelque chose qui se passe et on peut en tirer des conclusions qui sont erronées. Alors moi j'aime bien, il y a beaucoup d'anecdotes sur les économistes, on en a cité quelques-unes et on en citera probablement encore d'autres au cours de ce débat. Celle que j'aime bien, c'est celle de l'Indien et du trappeur. Donc il y a un Indien qui est dans les montagnes rocheuses et il y a un trappeur qui vient s'installer pour l'hiver. Donc le trappeur, c'est son premier hiver dans la région, il ne sait pas si l'hiver est rigoureux, donc il commence à couper du bois. Donc il coupe du bois, etc. Il pense avoir une pile assez conséquente, et il regarde l'Indien et lui demande « Bon, alors, est-ce que j'ai assez coupé de bois? Est-ce que l'hiver sera rigoureux ?» Et puis là, l'Indien le regarde en lui disant « Ah oui, l'hiver sera vraiment très rigoureux. » etc. Là, ça se répète, on peut faire durer la blague un certain temps. Et à la fin, vraiment, le trappeur a une montagne de bois coupé devant lui. Et à chaque fois, l'Indien lui dit « Oui, l'hiver sera très rigoureux. » Mais à la fin, il lui dit « Mais au fait, comment est-ce que tu sais que l'hiver va être rigoureux ?» Et là, l'Indien lui dit « Ah ben, c'est simple, quand homme blanc coupait du bois, ça veut dire que l'hiver sera très rigoureux. » Donc là, on comprend que l'Indien, finalement, c'est l'économiste, c'est un petit peu l'oracle que l'on va interroger. Et le trappeur, finalement, c'est le public qui pose des questions, qui s'attend à avoir des réponses extrêmement précises. Et en fait, on voit qu'il y a bien ce système de rétroaction entre les éléments observés et les observateurs qui font qu'on n'est pas exactement dans une science exacte.
Oui, entièrement d'accord. Mais quand je disais non tout à l'heure par rapport à la prédiction de l'avenir, en particulier la prédiction de l'avenir à long terme, ce n'est pas d'ailleurs ce que fait ou ce que tente de faire la prospective, je ne veux pas non plus réduire le rôle de l'économiste. Très souvent, on reproche aux économistes, en général, ce qui est déjà une erreur, de ne pas avoir vu venir une crise. Par exemple, la dernière crise importante, qui aurait pu être catastrophique, celle de 2008, dite crise des subprimes, dont je pourrais vous expliquer en détail, mais enfin, ce serait peut-être un peu long et ennuyeux, encore que tout le mécanisme, elle a été très bien prévue à partir de 2006-2007 par un certain nombre d'économistes de renom. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Simplement, on ne les a pas écoutés. Bon, il y avait des intérêts, il y avait la paresse habituelle des gouvernements et des administrations, si bien que la catastrophe est arrivée, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été prédite. La crise de 1929, qui était encore plus importante parce qu'elle a été très maltraitée, avait été prévue par Keynes. On raconte, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, je ne connais pas assez bien la vie de Keynes, qu'il a fait fortune à cette occasion. Parce qu'il a liquidé les actions, les titres qu'il avait pour acheter des obligations d'État et même probablement en vendant des titres qu'il ne possédait pas, enfin en vendant à terme, suivant des trucs classiques. Donc il aurait fait fortune à cette occasion parce que quelques mois avant la crise de 1929, à une époque de hausse irrationnelle, comme on dirait aujourd'hui, du marché, il avait compris que ça allait claquer quelque part. Et il n'était certainement pas le seul. Donc, dans la plupart des cas, des économistes ont prévu ce qui va se passer et l'ont expliqué très clairement. Il y a aussi une autre catégorie d'économistes que je ne prends pas du tout au sérieux, qui annoncent, il y a quelques Américains qui se sont fait une spécialité de ça, tous les 3 ans, ils annoncent une grande crise. Alors, quand elle n'arrive pas, on oublie. Et quand elle arrive, on dit quel gourou.
Et par rapport au... Effectivement, au préliminaire de la table, sur cette étude qui a été faite à partir du vocabulaire dans les différents articles, etc., quand j'ai lu ce préliminaire, il m'est revenu une phrase qu'on a beaucoup entendue tout au long du festival, qui est un lieu commun, on va dire, dans la science-fiction, c'est le système des théories autoréalisatrices. Et effectivement, quand on reprend ce préliminaire sur le fait qu'on a extrait des articles, les vocabulaires qui étaient récurrents et qu'on peut essayer de sortir une analyse, une tendance à partir de ce vocabulaire, je trouve qu'on tombe exactement dans le travers qu'on peut appliquer à la science-fiction qui soit est utopie, soit prévoit le pire, etc. Donc, et où on voit des choses dans notre vie, dans l'enchaînement des événements, où on dit « bah oui, la science-fiction ne fait que des théories autoréalisatrices », et l'exemple préliminaire qui a été donné à cette table ronde tombe, à mon sens, exactement dans le même travers, en allant chercher dans les productions des statistiques de textes, de mots, on ne fait que nourrir la bête elle-même.
Oui, sur le caractère. Alors, on est bien synchronisé, puisqu'effectivement, j'allais parler également du côté autoréalisateur d'une partie de l'économie. Donc, sur les marchés financiers, il faut avoir effectivement en tête que les acteurs des marchés financiers, que ce soit des opérateurs physiques dans les salles de marché ou tout simplement des algorithmes, puisque, comme vous le savez, dorénavant, il y a énormément d'ordres qui sont passés sur les différents marchés boursiers mondiaux, qui sont passés par des automates, par des algorithmes qui sont calibrés pour réaliser un certain nombre d'actions en fonction de certaines configurations. Il faut savoir que ces algorithmes ou ces opérateurs humains, d'ailleurs, travaillent à partir de modèles économiques, donc des taux d'inflation, l'évolution de taux d'intérêt, de parité de change, vont induire nécessairement un certain nombre d'actions qui vont être de l'achat, de la vente, de l'arbitrage. Et il y a un côté autoréalisateur, puisque ces opérateurs agissent bien évidemment de façon logique et rationnelle et vont avoir tendance à opérer et à agir dans le même sens. Et parfois, ce côté autoréalisateur est également amplifié du fait de ces automates, de ce qu'on appelle le trading algorithmique. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des coupe-feu, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, lorsque le volume d'ordre, dans un certain sens, devient trop important, il y a des coupe-feu qui se mettent en place afin que le marché ne soit pas déstabilisé. Et c'est là où on voit que finalement les modèles économiques sous-tendent une partie importante de la vie des grands marchés financiers. Et il y a ce côté autoréalisateur qui plane toujours un peu comme une menace. Et il faut, et c'est le travail des régulateurs d'essayer d'y pallier.
J'ai l'impression que lorsqu'on parle de prophétie autoréalisatrice, bon, il y a peut-être ces prévisions, mais il y a peut-être aussi un effet manipulatoire. Alors, est-ce que l'on peut imaginer que certaines personnes fabriquent des algorithmes qui pourraient donner quelques tendances, pas forcément manipulées, mais aboutir à des résultats espérés?
Je suis très sceptique là-dessus. D'abord, je crois qu'il faut bien distinguer, vous me pardonnerez, modèle et algorithme. Les algorithmes, ce sont des opérations plus ou moins complexes. Enfin, finalement, simples, ça ne dépasse pas les quatre opérations plus quelques bricoles. Tandis que les modèles impliquent un certain nombre de théories plus profondes qui sont derrière. Dans le domaine strictement financier, je ne connais pas de modèle. En tout cas, je ne me souviens pas que la Caisse des dépôts, par exemple, qui est le principal agent en France, n'ait jamais utilisé là-dessus de modèle, alors qu'elle utilisait des modèles pour faire des prévisions, en particulier en ce qui concerne l'évolution de l'épargne des ménages et du livret A. Les algorithmes, oui. Je crois que la distinction est importante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui, tout à fait. Les algorithmes que je décris sont une partie très spécialisée qui concerne essentiellement les acteurs sur les places financières. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des modèles économiques qui sont réalisés. Par exemple, le FMI, lorsque le FMI fait des revues de pays lorsqu'il y a des événements majeurs, donc on pense à l'Argentine, à la Grèce, etc. Il y a des modèles économiques qui permettent au FMI de prévoir les recettes fiscales attendues d'un pays au regard des investissements à mener, de ce qu'on appelle le courant, c'est-à-dire tout simplement payer les fonctionnaires. Et donc tous ces modèles fonctionnent assez bien. Donc pour revenir sur la question, est-ce qu'il est possible de biaiser ces modèles? La réponse est oui, puisque ça s'est produit pour la Grèce, puisque maintenant, c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Il y a eu une manipulation des données publiques sur
l'endettement. Oui, mais attends. Ce n'est pas le modèle. Alors, il se trouve voilà, un peu direction. Le modèle, tout le modèle n'a pas été biaisé. Il y a eu un trucage des comptes.
Il y a eu un trucage des comptes.
Ça n'a rien à voir.
Tout à fait. Alors, les économistes peuvent être dédouanés sur le côté modèle, puisqu'effectivement...
La banque Morgan...
Goldman Sachs, tout à fait.
Goldman Sachs, qui a truqué les comptes délibérément, sachant très bien ce qu'elle faisait, et les Grecs sachant très bien que la banque Morgan Sachs se faisait. Bon, là où il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est quand le FMI, l'Union européenne et je ne sais qui d'autre se sont laissés abuser. Parce qu'on m'aurait mis 3 semaines là-dessus, je vous assure, ils ne m'auraient pas eu. Hein.
Voilà, donc ça c'est un exemple à la question est-ce que on peut tromper les modèles? Oui, on peut tromper les modèles en introduisant des données incorrectes et effectivement fallacieuses.
Moi personnellement, je ne pense pas qu'on puisse réellement manipuler sur un terme long un marché, enfin en tout cas un marché financier, des marchés plus particuliers comme ceux de certaines matières premières où il y a extrêmement peu d'acteurs, hein, parfois il y a 3 ou 4 acteurs dans le monde entier. Oui, il y a des possibilités d'entente, il y a des possibilités de manipulation, et du coup, il y a des fluctuations du prix, souvent à la hausse, mais parfois aussi à la baisse, qui sont un peu surprenantes. Mais les marchés financiers où il y a un très grand nombre d'acteurs, non. En revanche, il se passe des choses assez curieuses. Il y a 20 ou 30 ans, j'ai publié un article qui était fondé sur des choses que vous connaissez bien, c'est-à-dire le fait que les transactions à la bourse, par exemple, ne sont pas tout à fait de même nature le lundi que les autres jours. Donc, ceux qui le savent et qui ont les moyens d'agir peuvent en profiter. Alors maintenant, ça prend une autre forme avec le micro-trading, c'est-à-dire des transactions qui se font à la vitesse de l'éclair et qui, chaque fois, ne permettent de gagner que quelques dizaines ou quelques centaines de dollars. C'est minuscule. Seulement multiplié par 1 million d'opérations de ce genre, ça finit par faire un petit paquet. C'est une des raisons pour lesquelles des agents financiers s'efforcent d'obtenir des moyens de communication plus rapides ou même se rapprochent physiquement des lieux où les marchés se trouvent. À l'heure actuelle, on essaye, par exemple, de, plutôt que de transmettre par câble optique, ce qui prend un certain temps, l'information, on voudrait réussir à la transmettre directement par laser, vitesse de la lumière, ça irait un peu plus vite. Enfin, ça ne pèse pas, c'est du vol, hein, il faut appeler les choses par leur nom, c'est du vol à la marge, mais enfin, ça ne pèse pas de façon significative sur les marchés.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est passé... Enfin, moi, je me place en tant qu'observateur parce que je ne suis pas du tout économiste. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est passé l'économie qui observe un marché à l'économie outil d'une stratégie sur un temps relativement bref. Donc quand on se replonge dans la question qui nous a été posée, est-ce que l'économie est un moyen de prédire l'avenir, on pourrait voir dans l'esprit d'une spéculation, pour éviter le terme de vol, mais d'une spéculation qui peut avoir effectivement des effets, on a effectivement la spéculation qui utilise les outils que la technologie, que les algorithmes, issus ou non des modèles, pervertis ou non par des données plus ou moins vraies, à non pas une prévision de l'avenir, mais une influence sur un marché avec un temps de réaction qui est très court, et par contre, dont les effets, à long terme, ont un impact sur l'avenir. C'est exactement... Enfin, ce qui s'est passé avec la Grèce a un impact, par exemple, sur la construction de l'Europe. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant. C'est que la question de l'économie, elle participe à la construction de la direction que l'on souhaite ou pas, dont on est victime ou pas, dans la construction d'un idéal ou d'une dystopie de l'avenir de nos sociétés.
Mais qu'en général, on est totalement incapable de maîtriser à quelque niveau qu'on se situe. Donc je crois qu'il ne faut pas trop fantasmer là-dessus. Je voudrais introduire une distinction qui me paraît importante, enfin, en tout cas... qui a dirigé à peu près tous mes travaux. Il y a d'une part le domaine de la prévision économique. La prévision économique, c'est quelque chose qui peut être très compliqué, mais qui en réalité est très simple. Ça consiste à observer des tendances passées, puis à les prolonger sur un certain temps. Bon, ça peut fonctionner en règle générale sur 5 ans à 10 ans. Je dirais qu'au-delà de 10 ans, et certainement au-delà de 20 ans, on se livre à un autre type d'exercice qui est de la prospective. Et à ce moment-là, on affronte non pas une prévision ou un nuage assez centré de prévisions, mais ce que mon ami Lesourne appelait dans un livre que j'ai publié, les 1000 sentiers de l'avenir. C'est-à-dire on est confronté à l'extraordinaire variété de possibilités que recèle l'avenir. Quand on essaye de conseiller une entreprise ou une administration dans le domaine de la prospective, on ne va pas lui proposer un avenir, on va lui proposer un certain nombre de scénarios possibles. Et d'ailleurs, qu'on met longtemps, enfin, à mon avis, il faut entre 6 mois et 2 ans pour faire une prospective sérieuse avec une équipe solide. Bon, si ça vous amuse, je peux. Enfin, on étudie les acteurs et on étudie les facteurs pour simplifier énormément les choses. Et alors, il se passe toujours à la fin, quand on remet, y compris à des gens extrêmement qualifiés, les 6 ou 8 scénarios sur les 200 ou 300 éventuellement qu'on a dégagés. Bon, on a fait une synthèse parce que sans ça, c'est inintelligible pour un cerveau humain. Sur les 6 ou 8 scénarios qu'on a dégagés, qui portent jusqu'à 25, 30 ans, je parlerai après des achats de temps, si on me laisse justement un peu de temps. Le client toujours pose la question, bon d'accord, tout ça c'est très bien, mais lequel est le bon? Comme s'il y avait un seul avenir et qu'on pouvait lui indiquer. Alors justement, le travail du prospectiviste consiste à offrir un champ varié. Alors je voulais faire une très très brève réflexion sur le temps, parce que la plupart des gens... y compris d'ailleurs, enfin, peut-être pas les économistes, ou les, se rendent pas compte des échelles de temps. Une génération d'avions, c'est 50 ans. Hein. Un grand réseau, dans quelques domaines que ce soit, c'est un siècle ou davantage. Alors, ça veut dire que les décisions, prenez le cas du nucléaire, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles vont engager 2 ou 3 générations, bien au-delà de ce qu'on sait prévoir, bien au-delà de ce qu'on sait faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
Alors c'est vrai que ce qui vient d'être dit, moi, c'est pareil, ça m'est venu en préparant cette table, c'est une des limites du vocabulaire, l'économie, c'est que sous le mot économie, en fait, suivant du point de vue où l'on parle, on va parler de différentes choses. Il peut y avoir la politique économique. Donc, c'est-à-dire une volonté d'un gouvernement, d'une institution comme le FMI. Il y a les études économiques. Donc, effectivement, on va essayer de sortir un sens d'événements plus ou moins passés, sachant que l'étude économique est une science très brève. On a, par rapport à l'histoire au sens strict du terme, les études économiques peuvent remonter à une centaine... 200 ans peut-être, mais après on a de moins en moins de traces qui sont objectives. Et après il y a l'action économique qui va être de l'ordre de ce qui va être décidé en bourse, dans les entreprises, etc. Et je pense que c'est assez important de peut-être de casser ce mot économie et de bien rappeler que sous un même vocabulaire, il y a différentes choses et de bien préciser de quel élément on parle pour permettre de... extraire le sens correct, parce que souvent juste le mot économie laisse un flou et on sait plus trop il y a un flou qui peut apparaître et qui peut empêcher de bien s'approprier ce qui va être dit.
La seule chose dont on soit certain, c'est qu'il y a toujours des sous derrière.
Oui. Moi je voulais faire le lien également avec la science-fiction et savoir comment cette science économique justement et appréhender en tant que façon de prédire l'avenir dans la science-fiction. Alors l'exemple le plus fameux, c'est évidemment Fondation d'Asimov, avec une science qu'on peut qualifier d'économique et qui s'appelle la psychohistoire. Et cette psychohistoire, à partir de données totalement disparates, statistiques, probabilistes, est agrégée dans ce qu'on appelle le plan d'Harry Seldon, qui doit justement minimiser au maximum la période de chaos qui est certaine et qui va arriver immédiatement après la chute de la première fondation. Donc cette période-là, Harry Seldon, donc on peut imaginer qu'il a des sortes de modèles, de modèles économiques, démographiques, sociétaux, etc., doit lui permettre de prévoir quand cela va arriver. Et on est sur une temporalité de plusieurs millénaires. Et évidemment, là, il y a de nouveau un grain de sable. Il y a l'apparition de l'anomalie statistique de l'être humain qui devient imprévisible et qui est dénommé le mulet. Donc, c'est intéressant de voir que même en science-fiction... les théories économiques et la prospective économique peut également nourrir un récit science-fictif.
Alors, ce qui est très important à préciser, dans Fondation, la psychohistoire ne marche qu'à deux conditions, c'est que la population humaine doit tendre vers l'infini et qu'elle ne doit pas savoir qu'elle est observée. Donc on en revient à ce qu'on disait au début de la table ronde, où dans notre réalité, eh bien, l'économiste observe un état qui sait qu'il est observé et qui attend le résultat pour réagir. Donc c'est l'effet de rétroaction. Dans Fondation, c'est pour ça d'ailleurs que la première Fondation reste secrète, parce qu'il ne faut pas que l'humanité sache qu'elle est observée par la psychohistoire.
J'ajouterais quand même que Isaac Asimov ne connaissait strictement rien à l'économie, ni à la sociologie, ni à rien de tel, qu'il était le premier à le reconnaître, et que quand il a écrit, alors qu'il avait une vingtaine d'années, les premières fondations, il faisait des études de biochimiste extrêmement brillantes, et que ça a été un vulgarisateur extraordinaire. Il a écrit un livre sur le cerveau qui est prodigieux, enfin qui est évidemment complètement dépassé, un autre sur le neutrino, on ne savait absolument rien sur le neutrino à l'époque, il a réussi à écrire un livre qui est absolument fabuleux, qui là aussi est totalement dépassé. Mais enfin, donc, en ce qui concerne l'économie, la sociologie, etc., non, il était parti de considérations historiques. Hein, oui, bon, le problème, Bill, c'est que l'histoire, c'est derrière nous, en général.
Alors, ce que je constate, c'est que on nous parle quand même de loi économique. Est-ce que l'on peut... Il y a le terme qui existe, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec une loi physique. Le gros problème de l'économie dans ce qui est sa prévision ou sa prédiction, c'est que ça concerne l'humain, lequel, par nature, est irrationnel. Et donc, il y a une grande difficulté à prévoir certains types de comportements. Donc, du coup, je me demande sur quel modèle s'appuient les économistes pour prévoir tout cela. Je suppose qu'il ne s'agit pas seulement que de chiffres ou d'échanges de bourse. Enfin, je suis quand même un petit peu inquiet lorsque je lis quelques articles qu'on se fonde sur le compte-rendu des données publiées par les économistes, non pas pour leur travail prévisionnel, mais sur la façon dont ils en rendent compte, parce que on peut voir à travers cela leurs angoisses ou leurs espérances, et donc on se fonde sur des données psychologiques.
Souvent idéologiques. Non, mais attendez, il n'y a pas que l'aspect financier, même s'il est très important. Il faut vraiment être stupide pour dire mon ennemi, c'est la finance, ou ignorant, ou plus probablement encore de très très mauvaise foi. Non, les économistes penchent aussi sur les chiffres de production, de revenus, ils étudient tout ça, et ce qui leur donne un certain nombre d'idées sur ce qui peut, à court ou à moyen terme, arriver. Si on s'établit plutôt du côté de la prospective, d'ailleurs, si vous voulez, on a deux grandes approches. La première, c'est celle des tendances lourdes. C'est souvent celle que dégagent les économistes. Quand des séries se poursuivent sur une longue période et ont toutes les raisons de continuer à se poursuivre, on appelle ça une tendance lourde. Et le deuxième point, c'est celui des ruptures. Alors, on sent bien qu'il y a des ruptures, mais le grand problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se passer. Ça, c'est là que ça devient franchement difficile. Et le prospectiviste en particulier doit attirer l'attention de son client sur le fait qu'il peut y avoir dans tel domaine une rupture qui peut être une opportunité, j'en ai connu, ou qui va être au contraire catastrophique, enfin en tout cas très inquiétante, mais on ne peut absolument pas lui indiquer quand cette rupture va se produire. Sauf avec une boule de cristal, mais la mienne est légèrement obscurcie, elle n'est pas aussi pure qu'il faudrait.
Oui, moi je voulais juste intervenir effectivement sur cette partie prospective pour dire qu'on est passé d'un domaine où il y avait beaucoup de macroéconomie, donc de constatations sur des tendances lourdes qui sont toujours très importantes et très suivies par tous les acteurs de marché. Mais dorénavant, avec les nouvelles technologies, notamment tout ce qu'on appelle le data mining, souvent il y a des données qui sont très précises. Par exemple, une entreprise va chercher à savoir quelle est la saisonnalité de ses ventes, la segmentation de ses ventes, la corrélation de ces ventes à certains événements extérieurs. Et ces données qui sont désormais disponibles en data mining, en ce qu'on appelle en CRM, en Customer Relationship Management, permettent de dégager également des tendances qui sont plus directement exploitables. Alors là, on n'est plus dans la macroéconomie, on est dans de la microéconomie appliquée au conseil à des sociétés, mais c'est une évolution qui est très intéressante, puisque jusqu'à présent, le nuage statistique était impossible à exploiter par une personne humaine, par un économiste. Et désormais, il y a des algorithmes qui établissent des corrélations, des droites de régression et qui arrivent à mettre en relation des données, alors à tort ou à raison, qu'on n'aurait jamais pensé à mettre en relation auparavant.
Oui, alors là, je voudrais franchement vous inviter à la prudence. Parce que quand vous avez du big data, vous pouvez avoir des programmes dits d'intelligence artificielle qui vont extraire toutes sortes de corrélations. La quasi-totalité de ces corrélations n'ont aucun sens. Il se trouve d'ailleurs que vous avez dans le dernier pour la science, je crois, un article fournissant un exemple, il n'est pas sur les sujets économiques, mais un article fournissant des exemples de corrélation à un niveau absolument extravagant qui n'ont absolument aucun sens, enfin, entre le cadre de rougeole aux États-Unis et le nombre de chats perdus, enfin, ou des trucs de ce genre, si vous voulez. Donc, quand j'ai manipulé beaucoup, beaucoup de données, l'extrême difficulté, c'est de trouver les bonnes questions à poser. Et ça, les machines, pour autant que je sache, ne savent pas le faire. Par contre, ou faire des corrélations à 99,99% qui n'ont absolument aucun sens, elles peuvent vous en sortir des milliers à partir du big data. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le big data. Je ne crois pas que ce soit si dangereux que ça, simplement. D'ailleurs, vous aurez bientôt le plaisir de lire un cahier que Libération va publier sur l'intelligence artificielle, que j'ai préfacé, où j'évoque un peu trop brièvement, évidemment, ce genre de questions. Big data, c'est big data, mais comment s'appelle Gigot voilà.
Et ce qui est intéressant, en fait, avec toutes les nouvelles technologies, les possibilités qu'apportent les nouvelles technologies, c'est, on a parlé de la boule de cristal, mais c'est qu'effectivement, il y a cette tendance, il y a cette volonté d'essayer de faire émerger des nouveaux outils, de rééclaircir la boule de cristal ou de passer de l'acchiromancie au tarot pour essayer d'offrir à la demande du client, qu'il soit une entreprise privée ou d'un gouvernement, les nouveaux outils promis par des technologies qui sont émergentes et pour lesquelles nous sommes encore, alors ça fait trois fois que je le cite sur des tables rondes, mais on est encore à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on en est vraiment au tout début de ces technologies et c'est assez. La réaction de Gérard Klein est assez intéressante sur le fait que, ok, bon. Il y a ça, mais il n'y a pas grand-chose à en attendre. Mais il y a en même temps cette volonté des économistes de vouloir offrir de nouveaux outils parce que l'histoire nous a heurté à certains échecs d'autres modèles.
Il y a aussi, de la part de certains qui ne sont pas forcément ou pas du tout des économistes, de vendre très cher beaucoup de baratins. Je vous signale d'ailleurs que j'ai appris à tirer le tarot avec Alexandro Jodorowsky, donc autrefois je le faisais régulièrement, mais je dois dire très honnêtement, jamais pour la Caisse des dépôts ni pour aucun acteur financier que j'ai travaillé.
Bon, à un moment donné, il y avait également des cartomanciennes à l'Elysée, hein, il faut le savoir. Hein, donc, tout à fait, enfin moi je m'inscris totalement dans...
D'ailleurs, on en a vu les effets.
Oui, on en a vu les effets. Moi, je m'inscris tout à fait dans ce qui était dit. Effectivement, le big data, ce n'est pas le Graal qui doit être pris pour argent comptant. Il y a toujours l'esprit critique de l'humain qui doit dire est-ce qu'il est logique de mettre en corrélation tel type de données. Il y a l'exemple fameux qui est souvent utilisé en sociologie. Où il y avait les cas d'études, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de cas de polio dans un État américain, etc. Alors, finalement, c'est ce qu'on appelle l'effet de loupe, puisque finalement, les sociologues ont regardé les revenus moyens, la présence d'industries éventuellement polluantes, la nutrition. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'est juste un effet de loupe, c'est juste une anomalie statistique qui n'est pas explicable, qu'on ne peut pas corréler à des facteurs particuliers de sociologiques. Et donc, à chaque fois, effectivement, il faudra, dans l'utilisation de ces nouveaux outils, que l'on va nous présenter effectivement comme la nouvelle boule de cristal ultime, il faudra garder son sens critique et voir effectivement si les modèles ou les corrélations qui nous sont proposées sont pertinentes. Mais c'est quand même quelque chose qui émerge beaucoup, que vous allez rencontrer que vous rencontrez déjà dans votre vie quotidienne, puisque quand vous, en fonction de vos centres d'intérêt, Amazon va vous proposer telle ou telle liste de lectures. La même chose chez les VPCistes, si vous achetez tel type de vêtements, on va vous en proposer un autre. Donc c'est quelque chose qui commence à émerger au niveau micro, et c'est un phénomène qui est à prendre en compte.
Alors, il a été utilisé plusieurs fois le mot de prospective en parlant de l'économie. Et je pense que c'est quelque chose. Il a été dit plusieurs fois que la prospective ne propose pas un avenir. Et quand un prospectiviste rend son travail, ça n'empêche pas à la personne, enfin au client, d'utiliser son libre arbitre. Et c'est peut-être la différence fondamentale entre l'économie et la prospective. Si on doit tenter de décrire l'avenir, c'est que la prospective, elle décrit toujours des avenirs. C'est-à-dire, il y a toujours un pluriel. C'est un faisceau qui est proposé, qui n'est qu'une aide à la décision de la personne qui est décisionnaire. C'est pour ça que personnellement, moi, je fais souvent la différence entre prospective et futurologie, où la futurologie, pour moi, est plutôt fermée, alors que la prospective est très ouverte. Et c'est peut-être aussi une des différences avec l'économie.
Oui, la futurologie, c'est du baratin caractérisé. Bon. Et si chaque fois que la prospective aurait tendance à glisser du côté de la futurologie, vous pouvez la balancer. Si certains d'entre vous sont vraiment intéressés par la prospective, je vous recommande l'excellente revue Futurible, qui est quand même assez technique, assez professionnelle, mais qui est très très lisible, qui aborde une multitude de sujets. Et qui est dirigé, évidemment son nom m'échappe maintenant, je connais que lui, enfin c'est un. Jouvenel. Ben, il faut dire, j'ai connu, j'en suis à la troisième génération de Jouvenel. Bertrand a publié il y a fort longtemps deux articles de ma plume, et beaucoup plus récemment, Hugues a publié une série d'articles que j'ai initiés sur le rapport justement entre science-fiction et prospective, invitant les prospectivistes et les lecteurs de Futurible à aller voir un peu du côté de la science-fiction, non pas pour y découvrir des prévisions, enfin, ou des images de l'avenir certaines, mais simplement pour se décrasser l'esprit, ce qui est très important dans cette activité.
Donc, pour résumer un petit peu, les big data, ce n'est qu'un seul outil, identique à une base de données très large, et c'est le type de question qui importe, et donc ça n'a rien à voir avec l'outil lui-même. D'un autre côté, les prévisions ne sont pas des prédictions, on a bien compris. Là où je me pose des questions, c'est que les modèles économiques, ou du moins ce que l'on cherche à identifier comme étant des modèles économiques, il y en a plein qui sont déjà connus, et apparemment, j'ai l'impression que la sphère essaye de chercher de nouveaux modèles. Je me demande pour quelles raisons on cherche de nouveaux modèles. Est-ce qu'il s'agit de compléter, d'ajouter des choses? Pourquoi on s'intéresserait à l'humeur des journalistes économiques? Ou alors pourquoi j'ai vu un titre, Twitter est-il la nouvelle boule de cristal de la bourse? Je me demande pourquoi on irait chercher des réponses dans Twitter même.
Il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à trouver. Là, c'est bon, il y a des données, il faut aller regarder. Mais encore une fois, la chose importante, c'est de poser les bonnes questions. Le big data peut être très important en épidémiologie, par exemple, pour la médecine. Mais ça signifie que des épidémiologues sérieux se penchent sur les résultats. D'ailleurs, les tout premiers travaux de cette nature ont été faits au 19e siècle à Londres autour d'une épidémie, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais enfin, c'est bon. Et le médecin a fait adresser la carte des cas qu'il connaissait et il s'est aperçu que c'était autour d'une source qui était polluée, enfin d'une source d'eau, enfin qui était polluée dans Londres. Et ça, c'était en quelque sorte la première utilisation de data, pas big, de petit, de little data, mais à des fins épidémiologiques. Et là, il y a des possibilités considérables. Je ne mésestime pas du tout la mine d'informations que ça représente. Je dis simplement qu'il faut que ce soit des humains extrêmement qualifiés, au moins dans l'état actuel des choses, qui essayent de l'exploiter.
Oui. D'ailleurs, moi, je voudrais prendre un exemple assez emblématique sur les... sur les élections américaines, où effectivement, il y avait eu, un panéliste qui a essayé de mettre en corrélation l'activité sur Twitter sur les comptes des candidats, donc Clinton-Trump, et de corréler ceci avec la probabilité de remporter un État et donc les grands électeurs qui vont avec. Évidemment, ça a marché au début parce que il y avait une bonne répartition entre l'utilisation des réseaux sociaux et la représentativité de la population dans cet état-là. Et ensuite, au fur et à mesure que on est arrivé dans ce qu'on appelle les swing states, donc les états qui étaient susceptibles de tourner. Ce cabinet de conseil s'est totalement planté et avait prédit la victoire d'Hillary Clinton. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tout simplement oublié que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont globalement plutôt des personnes urbaines, éduquées, qui auront plutôt tendance, qui habitent près des grands centres urbains et qui ont plutôt une tendance naturelle à utiliser Twitter ou Facebook ou d'autres choses. Et toutes les zones qu'on appelle toutes les zones blanches, zones blanches au sens télécom ou Internet, où les personnes ont un accès ou une utilisation moins immédiate des réseaux sociaux, ont voté majoritairement pour Trump. Et on voit que l'utilisation de ces mots-clés sur les réseaux sociaux peut être totalement fallacieuse et trompeuse.
Il faut dire que le système américain est tellement fou qu'il défie la prévision en général, à moins que les choses soient jouées d'avance. Et là, tout le monde s'est trompé, sauf un politologue américain qui utilise le curieux système. Il a annoncé le premier que Trump l'emporterait. Et je dois dire, j'ai eu une longue discussion avec ma femme là-dessus. Moi, j'y croyais pas trop. J'étais clintonien. C'est ce politologue qui avait raison. Est-ce que ça va continuer ? Alors, je voudrais répondre à une question soulevée par Claude, parce qu'elle est très importante. C'est, est-ce qu'il y a des modèles économiques ? Dans quel sens est-ce qu'on... Des lois économiques ? Dans quel sens est-ce que ça va ? De façon très générale, mais je crois de façon importante, on peut dire que ça va de la façon suivante. Les lois économiques, la pensée économique classique du 19e siècle et une partie du 20e siècle étaient centrées sur l'idée que l'homme, les humains en général, les individus, étaient rationnels. Donc, ils prenaient des décisions qui étaient les plus conformes à leurs intérêts. Alors ça, du coup, on calcule plus facilement les choses. Il faut bien dire que les derniers prix Nobel qui ont été conférés à des économistes n'ont pas été en sens inverse, mais enfin ont complété ça en introduisant de plus en plus une réflexion et même des modèles, alors pour le coup, sur l'irrationalité de certains comportements humains. Ça, je crois que c'est très important de réintroduire de la sociologie et de la psychologie dans des modèles économiques beaucoup trop simplistes d'autrefois.
Merci. Il nous reste quelques minutes s'il y a des questions dans le public. Voilà, un micro arrive.
Bonjour. J'aimerais avoir votre avis. J'ai le sentiment, enfin je pense que l'économie non seulement ne permet pas de prédire l'avenir, mais qu'en plus elle l'occulte. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est basée sur le pétrole, et l'économie ne prend en compte que les flux de pétrole et non les stocks. Et en fait, on sait tous qu'au bout d'un moment, on va aller dans le mur, il n'y aura plus de stocks. Et l'économie, enfin, on parle de la transition verte, mais en fait, rien n'est fait pour réduire les consommations. Donc, au final, j'ai l'impression qu'on occulte ce problème le plus longtemps possible, quoi.
Vous savez, en ce qui concerne l'épuisement des stocks de pétrole, ça fait 40 ans que j'entends ça et que je lis ça. Or, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Et j'ose espérer, alors en ce qui concerne le charbon, c'est encore pire, on en a pour plus de 100 ans, et j'ose espérer qu'on cessera d'exploiter le charbon d'abord et le pétrole ensuite, bien avant que les ressources soient épuisées, pour des raisons qui sont liées au principal problème qui a des conséquences et des dimensions économiques auxquelles l'humanité est confrontée, et auquel problème auquel M. Trump, semble-t-il, ne croit pas. C'est le réchauffement, enfin le changement climatique, enfin, le réchauffement de la planète. Et, bon, là, il faut abandonner tout ce qui est économie carbonée pour aussi vite que possible, parce qu'on a déjà largement dépassé le seuil d'inquiétude, pour le remplacer par d'autres sources non carbonées et ne produisant pas, ne tendant pas au réchauffement accéléré de la planète.
Très vite fait, c'est vrai que il ne faut pas attendre. En fait, c'est pas tant la question de savoir quel est le stock que l'on a que d'accélérer. Donc, ce qui veut dire, en tant que citoyen, on a un rôle à jouer, même s'il paraît infime, d'accélérer cette transition pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que si effectivement il y avait un risque imminent de rupture de la production des produits pétroliers, par contre, on prendrait que des mauvaises décisions, parce que ce seraient des décisions d'urgence. C'est parce qu'on a le temps. C'est parce qu'on a ces stocks qu'il faut s'engager dans une vraie transition pour avoir un bouquet énergétique de plus en plus large et qui évacue les sources carbonées. Donc on a, on va dire, même s'il y a une urgence climatique, on a la chance d'avoir ces stocks qui nous permettent de dire bon, ok, quelles sont les bonnes solutions à prendre, parce que si on était au pied du mur, là on serait vraiment dans le.
Permettez, j'ajouterais de façon beaucoup plus générale. Que ce problème de l'épuisement des ressources, il a été dans bien des domaines rencontré X fois dans l'histoire relativement récente et ancienne d'ailleurs même de l'humanité, et que les économies ont toujours jusqu'ici réussi à trouver des substituts. Il ne faut pas se faire d'illusions. S'il y a un truc qui manque, on fait un détour. Mais il n'y a pas d'exemple d'effondrement qui ait été lié à des manques d'une matière première, quoi que ce soit tel. Non, l'autre problème du pétrole, c'est qu'on en a trop. C'est pas qu'on n'en a pas assez.
Une dernière question. Là-bas. Ah.
Bonjour. Alors moi, je voudrais revenir sur le big data dont vous parliez tout à l'heure. Je sais qu'on est beaucoup d'entreprises maintenant à avoir des CRM et donc à avoir des idées assez précises de comment vont évoluer nos chiffres d'affaires sur une année. Je voulais savoir si c'est déjà fait ou même si ce serait possible de récupérer toutes ces informations-là au niveau des pays pour avoir des idées assez précises de comment est-ce que les choses vont fluctuer sur un an, deux ans, etc.
Vous avez, dans la plupart des pays civilisés, des instruments assez solides. En France, ça s'appelle la comptabilité nationale. Tous les ans, il y a deux ou trois cahiers concernant la comptabilité nationale qui sont publiés. Évidemment, ça concerne le présent ou le passé immédiat, mais enfin, il y a des ouvertures sur l'avenir. C'est pas facile à maîtriser. Hein. J'ai mis au moins deux ans et j'ai oublié depuis, malheureusement, à comprendre comment fonctionnait vraiment la comptabilité nationale, enfin être capable de lire les cahiers de la comptabilité nationale. Et je dois dire que même à la CEDES, en dehors du patron, j'étais un des rares, je crois, à savoir à peu près correctement l'interpréter. C'est pas intuitif. Enfin, tous les grands pays ont de bonnes séries statistiques qui permettent quand même de... Enfin, les ruptures, elles tombent pas comme ça du ciel du jour au lendemain. Il peut toujours y en avoir, mais enfin... Non, là on est bien informés quand même. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aux gouvernements, quand ils ne sont pas complètement bouchés, de, non pas de contrôler, mais enfin de remédier à des accidents graves. La façon dont la crise de 2008 a été plutôt bien traitée, à partir du moment où elle est devenue véritablement inquiétante, nous a évité de tomber dans la catastrophe 1929 ou, pire encore, 1923 en Allemagne avec l'inflation galopante.
Oui, pour, juste pour compléter, effectivement, on a des... il y a des séries statistiques donc, qui sont produites donc, en France, et c'est l'INSEE évidemment qui gère tout ceci. Il commence à avoir des profondeurs d'analyse qui sont vraiment très intéressantes. En revanche, souvent, si vous évoquez le cas de CRM, ça demande une granularité d'analyse qui n'est pas disponible immédiatement par l'INSEE parce que ce ne sont pas la collecte de données ne va pas jusqu'à ce niveau, parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter lorsqu'on rassemble des données à un niveau, national ou international. Et donc, effectivement, l'un des enjeux de ces grandes bases CRM, c'est d'avoir des bases qui deviennent propriétaires, et ça devient un vrai enjeu pour les sociétés. Et la tendance n'est pas du tout à la mutualisation. Au contraire, ça devient, on va dire, un secret, un avantage compétitif de l'entreprise de maîtriser ces données. Et donc, la tendance n'est pas du tout à la mise en commun de ces données.
Est-ce que, si on me laisse 5 minutes, je vais raconter une petite histoire marrante à propos de prévisions. J'étais donc, pendant un bon moment, le gourou de la Caisse de dépôt pour le livret A, l'avenir du livret A, etc. Alors, pour les besoins de son livre annuel d'activité, la Caisse de dépôt avait besoin d'une prévision du livret A, disons, sur l'année en cours, sur l'avenir sur lequel on ne savait rien. Alors, il y avait un modèle qui tournait à la Caisse de dépôt, ça prenait très longtemps, il fallait qu'ils aient les données des années précédentes, enfin, de l'année immédiatement précédente, etc. Donc, on n'avait jamais le chiffre, il fallait l'avoir en février ou plus tard en mars, il n'y avait jamais à temps. Moi, j'avais mon procédé, j'avais un tiroir soigneusement fermé à clé, dans lequel il y avait un graphique semi-log, semi-log, un crayon et une règle. Je prolongeais chaque année et je lisais le résultat que je fournissais. C'était toujours exact. Je savais, et finalement le modèle 2 mois après donnait à peu près la même valeur. Je savais très bien qu'un jour ou l'autre, ça s'effondrerait, mais le résultat du modèle aussi. Rien ne vaut une règle et un crayon tant que ça marche.
Je crois que c'est une très bonne conclusion. Je vous remercie. Et vous pourrez retrouver nos intervenants à la librairie. Vous pourrez leur poser des questions supplémentaires si vous voulez.